Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. J'ai deux informations de la plus haute importance à vous communiquer. Alors s'il vous plaît, ouvrez grandes vos portugaises. Tout d'abord, c'est aujourd'hui que sort sur les écrans français Stan et Ollie, réalisé par John S. Baird avec John C. Reilly dans le rôle d'Oliver et Steve Coogan dans celui de Stan Laurel. Film dont nous vous aurions abondamment parlé si le distributeur avait eu la bonne idée de faire venir à Paris les deux acteurs, mais que je me contenterai de vous encourager vivement à aller voir si vous aimez Laurel et Hardy. Et je vous le demande, comment peut-on ne pas aimer Laurel et Hardy si l'on est un être humain normalement constitué? L'expression « normalement constitué » incluant bien entendu les handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, à l'exception peut-être des malvoyants à qui échapperont certains gags essentiellement visuels. Le film est un bijou de tendresse, de nostalgie qui raconte le début de la fin du mythe duo à l'occasion d'une tournée anglaise en 53. Courez-y. L'autre info du jour, c'est que la pétition initiée par les deux sites Stagiaires des affiches et Sens Critique pour faire monter sur scène Alain Chabat et Gérard Darmon à l'occasion du prochain Festival de Cannes pour y interpréter 25 ans après la mythique carioca du non moins mythique La Cité de la Peur, prend l'ampleur d'un tsunami. Même José Garcia, oui, celui qui, je le cite à nouveau, encule les Beatles, fin de la citation, a ajouté son nom à la longue liste des signataires. Faites comme lui, ami Popopien, signez à votre tour et faites en sorte qu'une bonne idée à la con rentre dans l'histoire avec un grand T. En attendant, Keren Ann est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Keren Ann.
Bonjour.
Et bienvenue dans Popopop. Où en est-on avec cette pétition, Charline?
Je vous dis bonjour. Ça de suite. Bonjour Antoine. Bonjour,
bonjour Charline.
17 235 signataires.
17 235 signataires.
36, puisque...
36 avec vous, Keren Ann?
Ah oui, totalement.
Oh, ben oui, ça y est, ça grimpe. Keren Ann signe la pétition, ça va faire monter ça en flèche. À mes côtés, donc.
17 243 depuis le début de votre
bravo. Alors au menu également de Popopop, l'auteur Sophie Rosemont qui viendra tout à l'heure nous présenter son livre Girls Rock. Mais avant ça, Keren Ann, ici il existe une question que l'on se pose aussi bien en France qu'en Israël, en Russie, à Java ou aux Pays-Bas. Et cette question, c'est la suivante. Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses kérénanisantes, blueseuses, huitième albumesque, pop-pop-pop-pilantes, et parmi mes préférées, il y a celle de votre ami Lou Doyon.
Il y a un côté bubblegum et un liwo, un peu. Le côté usine à...
Reproduction.
Je pense qu'il y a quelque chose de... dans l'idée d'un populaire accessible, même si Warhol est quand même la chose la plus inaccessible pour le commun des mortels, mais il y a quelque chose comme ça, et de très coloré. Un peu bubblegum et un peu américain.
Un peu Donald Duck, peut-être.
Un peu Donald Duck.
Comme votre sweatshirt.
Ouais, mais parce que c'est le seul Donald que j'aime.
Voilà pour le doyon. Et vous, Keren?
Ah, je suis d'accord avec elle. Justement, le populaire accessible, le côté un peu sexy qu'on peut aimer, et puis qu'on peut aimer et aussi être fier d'aimer, puisqu'il est un peu reconnu. Mm-hmm. Et puis, ça peut être aimé autant par quelqu'un qui vient de découvrir sans forcément savoir plus, parce qu'il aime la surface, et puis par quelqu'un qui aime en profondeur. Il y a un côté un peu j'aime ça, et puis c'est reconnu aussi. Il y a un côté même quand pour certains, enfin ça peut pas être de la merde en fait, finalement c'est un peu reconnu par des intellos par moment, il y a ce côté-là, Andy Warhol, voilà, c'est arty, c'est pop.
Très bien, ça vous convient Charline?
C'est parfait.
Je suis obligé de demander parce que là je suis en minorité.
Ouais.
Ok, alors Keren Ann, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Selfish, le tout nouveau morceau de la jeune anglaise Little Sims.
Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the steez though. And now I'm here, can't entertain no bummy boy. Need my boy fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage steady blowing.
I'm a woman who can teach you a little something about class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Tell myself I rate my fellas off but never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes, they wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly.
I can't sleep the night, I don't wanna fight. My best friend is I. I'm so selfish, guess I'm in denial. Maybe I'm gonna be right, heard it all my life. I'm so selfish. I'm so selfish.
Love and hate can never be friends. Don't rush everything in this divine turn. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new when I know the cause. Wait, call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type. Till now, I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight. Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there. I make it clear, don't be in and out about what you hear. They say I always get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, go.
I can't sleep at night, I don't wanna fight. My best friend is I. I'm so selfish, guess I'm in denial.
Selfish de Little Sims, c'est extrait de l'album Grey Area qui vient de sortir et décidément le mois de la femme puisque le vôtre, Karen Anne, sort après demain. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une invitée qui a été figurante dans le clip « Mais un peu de musique » des jumelles de Premier Baiser, la sitcom d'Abbé. Qui est donc cet invité? Alors réponse avec son pop portrait. Alors il y a pop portrait, c'est votre portrait bien sûr qui règne, mais
à base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Roux.
Aujourd'hui, nous recevons une invitée qui, avant de se déclarer bleue comme la mélancolie, avait déjà annoncé la couleur, ou plutôt les différentes nuances qui allaient teinter sa carrière. Blanc, et a priori froid, comme un dimanche en hiver, présent sur la biographie de Lucas Philipsen, puis pâle, comme les rivières de janvier qui coulaient dans l'album La Disparition. Vert, enfin, c'est en tout cas comme ça que moi j'imagine les temps pleins de regrets de Not Going Anywhere, l'album suivant. Couleur béton pour Nolita, le New-Yorkais. Couleur peau pour Karen Anne, le bien-nommé, et cette invitation Lay Your Head Down. Noir et blanc à cause de l'esthétique pour 101, même si Noir c'est Noir était fort à propos pour le génial titre My Name is Trouble. Sépia comme la sublime pochette de You're Gonna Get Love. En définitive, vous l'aurez compris, une artiste toute en nuances, pluriel, sauf le gris, pas d'affront s'il vous plaît, mais plutôt de la poésie.
Merci, merci Charline. Alors, question à la Laura Adler. Vous vous sentez de quelle couleur aujourd'hui, Karen Anne?
Alors, ça dépend des jours, mais je me sens très en noir et blanc avec une touche de sensation bleue mais invisible.
Merci. Karen, à propos de couleurs, quelles sont les choses qui vous font le plus rosir ou rougir? C'est selon, pour le savoir, nous allons passer à votre pop-list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi Frankenstein, roman épistolaire publié anonymement par Marie Scheller en 1818. Charline, une question qui nous vient de Monsieur Ménard à Béziers. Frankenstein était-il juif ?
Vous parlez de monsieur qui est en indélicatesse là actuellement ? Ça, je n'en ai aucune idée. C'est en tout cas sa créature qui est passée à la postérité, un monstre créé de toutes pièces par ce savant fou à partir de cadavres humains et d'animaux.
Bien. Kiranan, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Avec joie. Donc, ça va être du sport, parce que je connais tellement bien en anglais, je l'ai jamais lu en français. Bon, j'ai tressailli et m'éveillé dans l'horreur. Une sueur froide me couvrait le front, mes dents claquaient. Tous mes membres étaient convulsés. C'est alors qu'à la lumière incertaine et jaunâtre de la lune traversant les persiennes de ma fenêtre, j'aperçus le malheureux, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit, et ses yeux, s'il est permis de les appeler ainsi, étaient fixés sur moi.
C'est un roman qui fait peur. C'est un roman qui date de 1818. C'est un livre qui vous a subjugué, terrifié, oui. Ventilé, marabouté. Encore un truc en nez.
En fait, quand je l'ai lu, j'ai pas du tout senti qu'il faisait peur. En fait, ce qui m'impressionnait justement, c'est qu'on crée des choses et qu'après, ils reviennent comme un boomerang. Mmh. Pour soit être notre plus grand ennemi, soit notre plus grande leçon. Mmh. Et je pense que c'est très très bien illustré dans ce livre, avec justement ce côté pop, qu'on crée un monstre, voilà.
Ouais, ouais. Mais c'est une ambiance très gothique, très sombre, très très inquiétante quand même.
Ça dépend comment on regarde, oui, parce qu'on nous a endoctriné que cette ambiance, elle est gothique et sombre. Elle pourrait être totalement, aujourd'hui, dans un haussmannien de Montmartre.
Donner envie de leur lire, dans cette optique. Bien, Kerenen, pour le film, vous avez choisi The Man Who Shot Liberty Valance, réalisé par John Ford en 1962. Charline, c'est bien le film où il se dit que si la légende est plus belle que la réalité, il vaut mieux imprimer la légende, n'est-ce pas, Tétilès ?
En effet, Antoine, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un homme politique qui assiste à l'enterrement de son ami. L'occasion pour lui de revenir avec un journaliste sur les moments importants de sa vie, son arrivée dans l'Ouest, l'arrestation de sa diligence par le célèbre bandit Liberty Valance, sa volonté de se venger de celui-ci.
Out of the flame and fury of the frontier, the Old West lives again as only John Ford can recreate it. Peopled with wonderful characters who have become legend in their own time.
That's my stake, Valance. You heard him, dude. Pick it up. I said you, Liberty. You pick it up.
Of them all, two are the most memorable. Liberty Valance and the man who shot him.
Kiranan, je voyais sourire en écoutant cette bande-annonce. En fait, c'est génial le cinéma à la radio, non ?
C'est fantastique le cinéma à la radio, parce qu'en fait, ça permet tellement de choses. Tout qu'on peut écouter sans regarder, puis aujourd'hui... Enfin, quand ma fille elle veut bien s'asseoir écouter un album sans regarder ou sans le lire en même temps, c'est un bonheur pour moi parce que tout est dans l'auditif. En fait.
Pourquoi L'homme qui tue Liberty Valance, par exemple, plutôt que La prisonnière du désert, qui est toujours le film de référence pour John Ford ?
Parce que je pense que dans celui-là, il y a une forme de intense mélancolie. On apprend beaucoup sur les relations, comment tenir une vie, comment est la manière, les valeurs. Et la morale dans ce film nous font vraiment réfléchir. Il y a énormément, on s'attache au personnage, on s'attache à l'histoire. Je ne vais pas la raconter parce que je ne vais pas faire de spoiler, mais c'est vraiment... le rythme de ce film est génial, comme dans les John Ford en général, mais c'est vrai que... En plus, il y a James Stewart et voilà.
Passion de James Stewart,
passion,
je crois.
Oui, voilà, une grande passion pour lui. Et l'histoire, ses regrets, la manière dont il tient le secret... Est-ce que il vaut mieux raconter la légende que la vérité ? C'est la grande question.
Voilà. C'est un chef-d'œuvre. Hein,
oui,
dire les choses simplement. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, précipitez-vous là-dessus. Après, c'est d'aller voir Stan et Ollie, qui sort aujourd'hui dans les salles, comme je l'indiquais tout à l'heure. Alors, Kiranan, votre série culte, c'est Seinfeld, créée par Jerry Seinfeld et Larry David, diffusée pour la première fois sur la chaîne américaine NBC en 89. Charline, Seinfeld, c'était il y a bien longtemps, à la fin des années 80. Alors certes, il y a l'Internet, mais rafraîchissez la mémoire des millénials, je vous prie.
Mais avec grand plaisir. Seinfeld, comédien et stand-upper new-yorkais, partage sa vie entre la scène et ses trois amis. George, son ami d'enfance un poil névrosé. Hélène, son ex, jamais contente. Et enfin Kramer, son voisin un peu azimuté.
Générique. « Alors, Seinfeld,
on peut pas du tout dater la période, hein, grâce à ce générique.
Ah, pas du tout, non.
C'est oui, la paix.
Ça aurait pu être enregistré hier, oui. vous êtes plutôt Seinfeldienne ou Seinfeldophile?
Je suis les deux, puisque, en fait, je pense que même ce qu'il a fait après, qui par moment, ceux qui ont vraiment aimé la série pensaient qu'il n'y avait aucun intérêt. J'adorais la Comedians in Car Drinking Coffee et tout. Mm-hmm. Donc, je suis les deux, je suis sa carrière, mais c'est vrai que, la série Seinfeld, elle peut nous apprendre à vivre un peu. Mm-hmm. Ça fait partie fait. De, enfin, c'est comme un mode d'emploi pour vivre. Voilà. Et en fait, je pense que c'est ça. Si on veut apprendre quelqu'un à vivre, ce qu'on n'apprend pas à l'école, on regarde cette série et voilà.
Vous avez suivi avec la même attention les aventures de Larry David après? Dans Curb?
Oui, alors j'adore son écriture et je trouve que c'est d'une poésie, d'un humour incroyable. Mais c'est vrai que j'ai pas un attachement aussi fort à Curb Your Enthusiasm.
Mais c'est générationnel tout ça. Bien. Oui. Kerenan, terminons cette pop liste avec votre chanson culte et cette chanson, c'est celle-ci.
Ah, but I just thought you might want something fine, made of silver or of golden, either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona.
Boots of Spanish Leather de Bob Dylan, c'est un morceau sorti en 64 sur l'album The Times They Are Changing. Alors Dylan, tout Dylan ou le Dylan des débuts, le Dylan converti, le Dylan électrique?
Tout Dylan, parce que je pense que bien évidemment il y a des périodes qui me touchent beaucoup plus que d'autres, surtout dans ses narrateurs et ce qu'il choisit d'écrire. Mais tout Dylan, parce que je comprends aussi la fermentation et comment elle devient ce qu'elle est devenue ces dernières années. Cette chanson en particulier, je pense que comme la série Seinfeld, elle peut apprendre quelqu'un à vivre. Mm-hmm. En tout cas, elle peut apprendre les relations amoureuses et comment on peut s'attacher à quelque chose et comment on a besoin de d'être sûr de quelque chose et comment. Enfin, il y a plein de choses dans cette chanson qui, pour moi, peuvent apprendre à connaître un homme ou une femme. Voilà.
Vous parliez couramment anglais à l'époque où vous avez découvert Dylan, ou bien Dylan a participé à votre acquisition de la langue?
En fait, c'était ma langue d'origine, anglais, mm-hmm. puisque mes parents, qui, pour se comprendre, parlaient anglais entre eux. Donc c'était un anglais avec beaucoup d'accent, mais c'était la langue qu'ils se parlaient, et donc je l'entendais toujours autour de moi. Et c'est vrai que Dylan et Springsteen, ils ont participé à mon éducation d'un point de vue philosophique, peut-être. Mm-hmm. Mais en tout cas, sûrement poétique.
Et puis aussi dans l'art du songwriting.
Totalement. Tous les outils, de choisir d'être narrateur d'une histoire, de pouvoir donner avec du son, des mots, une progression harmonique, une émotion forte, mm-hmm. Qu'elle soit notre histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre. Comment mettre ça en 3 minutes 30 ou en 5 minutes, c'est des grands professeurs pour moi.
Bien, je résume Frankenstein, The Man Who Shot Liberty Valance, Seinfeld, Bob Dylan, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
The Old West lives again.
That's my stake, Valance.
Ah, but I just thought you might want something fine.
You heard him, dude. Pick yourself.
Meet a silver or a golden.
J'aperçus le malheureux, le misérable monstre que j'avais créé.
As only John Ford can recreate it.
Well, that's all I'm wishing to be owning.
You pick it up.
Comme un 20 ans d'analyse.
20 nouvelles années, vous voulez dire? Ça ouvre des perspectives.
Oui. Enfin, Il faut qu'il soit bon.
Vous vous y retrouvez un peu quand même.
Oui, ça va.
Bien. Kerenan, avant de parler de l'album bleu qui n'est pas celui de Michou mais le vôtre, écoutons-en un extrait, un duo en français avec David Byrne. Ça s'appelle Le goût d'inachevé.
J'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre verre.
Si vous étiez ma femme, je le boirais. Si vous étiez ma femme, je je vous emmènerai près des falaises.
Si j'étais votre femme, je sauterais
sur les amants de romance, savent mourir en beauté d'un amour impossible au goût d'inachevé. Et c'est les héros en écran de souffrir en secret de cette heure indécible d'un jour s'entretuer.
Si vous étiez ma femme, je vous présenterais votre amant.
Si j'étais votre femme, je l'aimerais. J'étais votre femme, je volerais votre cheval blanc.
Si vous étiez ma femme, je l'emparais
sur les amants de romance, savent mourir en beauté d'un amour impossible au goût d'inachevé.
Inachevé, c'est un duo Keren Anne, David Byrne dans Pop 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 sur France Inter. C'est extrait de Bleu, le 8e album de Keren Anne, notre invité d'aujourd'hui. Et c'était une exclusivité Pop 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 dont je vous remercie, Keren. On vient d'entendre donc David Byrne en français. Comment s'est passé ce featuring, ou plutôt cette collaboration, puisqu'on chante en français là.
En fait, tout a commencé en 2011 quand j'ai joué au Barry Ballroom à New York. En sortant du concert, j'ai dit à Christopher Stockdale, qui est mon tour manager, je lui ai dit, c'est fou, au deuxième rang, il y avait quelqu'un qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à David Byrne. Je croyais que mon cœur s'arrêtait. Je suis très très fan des Talking Heads, enfin j'ai toujours été, et de David Byrne. Il m'a dit non, mais c'était David Byrne. Et le lendemain, je tombe sur son blog où il raconte un peu cet album et je vois dans les archives qu'il avait aussi un petit billet d'humeur sur mon album précédent. Et je me dis, mais c'est fou quand même. J'ai juste envoyé un petit mot de remerciement. Je savais même pas s'il l'avait reçu. Et en 2013, mon ami Thomas Bartlett, qui est musicien à New York, m'appelle et me dit, voilà, David Byrne voudrait faire une reprise de Strange Weather. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui réalise. Et je lui ai dit, mais même si c'est réalisé par un chien, je m'en fous, mais bien sûr, j'adorais. Et en fait, cette grande surprise incroyable. Et en plus, la réalisation magnifique de Thomas Bartlett et ce duo avec Anna Calvi, le grand cadeau d'écouter Strange Weather par David Byrne. Mmh. Et Anna Calvi, c'était encore un cadeau. Et là, pour le goût d'inachevé, j'ai envoyé un mail en disant voilà, j'aimerais vraiment que vous soyez invité sur un titre de mon album avant d'envoyer la chanson. Et même sans écouter la chanson, il m'a répondu I'm in.
Wow, ça c'est chic. Donc,
justement, retour en 2013.
She'll take you back. Don't make believe you wanna think.
Cette fameuse reprise, David Byrne et Anna Calvi qui reprennent votre Strange Weather. Comment est-ce que vous avez réagi de manière immédiate, voire viscérale, quand vous avez entendu ?
C'est fou parce qu'il y a des voix qu'on entend. Mmh. En fait,
vous entendez des voix ?
Non. Il y a des voix qu'on entend toute notre vie. Pour moi, la voix de David Byrne, elle a toujours été là. J'ai toujours écouté Talking Heads et c'est un instrument que je connaissais. C'est que, et puis, voilà, c'est une fois de plus quelqu'un que je connaissais. Ça m'était déjà arrivé dans le passé, qui chante ma chanson. C'était assez fou. J'étais très, très touchée. Alors que c'était pas une rencontre, c'était pas un truc organisé, c'était pas quelque chose. C'était tout simplement, c'était naturel. C'était le cadeau comme ça qui arrive de la vie. Et qui m'a fait sourire et que voilà et que j'ai envoyé à ma mère, je sais pas si trop elle a pas trop compris de quoi. Voilà.
Un album écrit en français, c'est le premier depuis 17 ans, Kéranan. Pourquoi avoir attendu si longtemps, ou alors plutôt pourquoi avoir privilégié l'anglais si longtemps?
Alors, c'est vrai que j'aime écrire dans les deux, le français étant une langue d'adoption, alors que l'anglais a toujours existé dans ma vie. Je pense que même si je parle quatre langues, il n'y en a aucune que je parle parfaitement. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire, parce qu'on a le temps vraiment de se reprendre, de se corriger. C'est pour ça que j'aime l'écriture. Mais c'est vrai que j'ai jamais arrêté d'écrire en français. Je le fais beaucoup pour les autres. Il y a plein d'albums que j'ai fait entre-temps, mais je me sentais pas de raconter ma vie en français, alors qu'à la maison tout se passait en anglais, que mon entourage était anglo-saxon. Et puis là, je suis de retour entièrement en France, à Paris. Je suis parisienne, je vis en France, tout est en français. Autour de moi, tout se passe en français. J'ai une communauté de parents, de vie, tout est en français. C'était naturel que ce chapitre soit en français, donc.
Est-ce que vous avez réussi à identifier ce que la langue française vous permet de dire ou de faire sonner que l'anglais ne vous permet pas ou vous permet moins, peut-être ?
Pas encore, puisque si je n'arrive pas à le faire avec une traduction, c'est-à-dire que je ne traduis pas forcément, j'arrive à le faire dans l'ensemble. Ça veut dire que ce mot-là, avec cette note-là, sur cet accord-là, ou cette suite d'accords, cette suite de mots sur cette suite de notes, sur cette progression harmonique-là, donneront exactement la même sensation que j'arrive à faire avec d'autres notes, d'autres accords et d'autres mots en anglais. Donc finalement, la forme physique qu'on donne à quelque chose, on peut le faire dans les deux langues.
En parlant d'écriture de chansons, vous utilisez le mot fermentation. Vous l'avez encore dit tout à l'heure à propos de Dylan. Vous dites que vous devez le ressentir physiologiquement comme un sculpteur qui travaille le bronze. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir ça?
Oui, parce que parfois, en fait, on tourne, on se met au piano, à la guitare, on a une idée, une phrase qui nous trotte dans la tête, et très très simplement, et d'une manière plutôt de plaisir, on a envie d'essayer, de tenter l'ensemble. Et parfois, il arrive qu'on a une idée, et elle a besoin de sortir, et on tourne autour, on tourne autour, on tourne autour, et on fait une progression, et on peut passer des heures de concentration, même physiologiquement, avoir mal dans les muscles, comme toute personne qui écrit, et puis on n'arrive pas forcément à destination, alors qu'on peut mettre de côté, et puis ça continue justement à vivre comme une bactérie en nous. Et la deuxième fois, quand on se remet au piano, à la guitare, pour faire ressortir, ça sort un peu plus mûr et un peu plus mature. Donc je pense que les chansons ont cette qualité, elles peuvent continuer à fermenter comme une bactérie, même quand on ne donne pas attention.
Donc vous comparez les chansons au yaourt?
Ou au levain naturel.
Ou au levain naturel. Bleu, c'est une couleur qui vous poursuit. C'est le titre d'un des albums de Joni Mitchell, que vous tenez en très haute estime. C'est le nom du label Blue Note, sur lequel vous avez enregistré trois albums. Qu'est-ce que le bleu a de plus que le jaune?
Bah déjà, il est plus élégant. Enfin, même si le jaune, c'est très beau, mais je pense que le mot... Et puis le bleu, c'est surtout, dans mon cas, c'est le bleu au féminin. J'adore ça en français, qu'il y a deux mots qui sont prononcés de la même manière, mais qui ont deux versions. Je trouve que c'est ça qui est génial. Et ce bleu au féminin, pour moi, personnellement, il évoque autre chose. Déjà, le fait qu'il soit féminin, et quand on le lit à l'eau, c'est pas seulement l'eau de la rivière ou de la mer, c'est l'eau amniotique. Il y a quelque chose de beaucoup plus, justement, trouble, avec beaucoup plus de sens. Donc, il y a plein de raisons. Et puis, si c'est un blues, donc c'est un blues au féminin.
Alors bleu, justement, comme une forme de blues et de mélancolie, vous le disiez, celle qu'on trouve dans les textes de bleu, les amours, les blessures, les adieux, cette mélancolie, vous dites en avoir besoin pour être touchée par l'œuvre des autres. Mais comment est-ce qu'on dompte la sienne pour en faire des chansons?
En fait, la mélancolie, elle existe partout, dans les plus grands moments de bonheur. On a besoin de reconnaître la mélancolie pour reconnaître les moments de bonheur, puisque on vit quelque chose d'exceptionnel qui nous rend très très heureux. Et une heure plus tard, c'est déjà mélancolique puisqu'il fait partie du passé. Donc c'est une espèce de ritournelle naturelle qui se fait tout le temps. Mais je pense que justement, moi dans mon observation, à partir du moment où j'arrive à voir un aspect mélancolique dans quelque chose, ça veut dire qu'il me touche et que j'ai envie d'en parler et que j'ai envie de le mettre dans une chanson. Donc quand je regarde le travail des autres, il faut que je ressente aussi.
Voilà. Kerenan, à propos de votre métier, vous dites, je vous cite, hein, « Aujourd'hui, j'enfile mon costume de musicienne le matin, comme on met un bleu, décidément c'est une obsession, de chauffe, avec des horaires fixes, comme pour aller au bureau. » Ça, c'est depuis que vous êtes maman. D'ailleurs, vous parlez vous-même de bleu comme de l'album de la maternité.
Non, je disais que je déteste ces termes, l'album de la maternité, parce qu'il peut. Mais ce que je pense justement, parce que ce bleu amniotique, et parce que en fait, quand j'écris cet album, j'étais sur plein de projets, musique de film, musique de danse, je travaillais sur des projets de théâtre, et pour vraiment trouver du temps pour écrire, il fallait que je me lève très très tôt, parfois même avant le bleu du jour. Mmh. Et donc, oui, je pense qu'il y a ce côté-là où, quand on est jeune, on peut travailler 48 heures, 72 heures d'affilée sans prendre une gorgée d'eau. Et quand on a des responsabilités, on a besoin d'avoir des horaires. Et on sait que pendant 4 heures, il faut arriver à un résultat. Et c'est aussi ce qui fait l'expérience. Et c'est aussi ce qui fait la magie de ce métier. Parce qu'en fait, on ne dépend pas de l'inspiration. C'est elle qui dépend de nous, parfois.
Alors vous écrivez plutôt de manière très solitaire ou au contraire, est-ce que vous avez besoin de rebondissements et d'effervescence autour de vous ?
Très solitaire. Après, quand je co-écris et quand je travaille avec d'autres, en général, c'est dans des cercles très, très, en tout cas de confort, petit, fermé, mais en tout cas très solitaire. J'ai besoin du silence, c'est pour ça que je me lève tôt. J'ai besoin de ma cuisine, j'ai besoin d'un environnement où il y a au moins un piano pas loin, une guitare pas loin. Voilà, j'ai besoin d'un environnement calme. Sur court de préférence.
Le design, la photo de l'album sont l'œuvre de Bouchra Jarrar, ex-directrice artistique de L'Envin. De belles photos noires et blancs, des photos qui donnent un sentiment d'épure, de simplicité. C'est ce que vous vouliez suggérer ou c'est le regard de Bouchra ?
C'est les deux, bah forcément, puisqu'elle a donné son regard. Mais pour moi, le noir et blanc était important. Parce qu'en fait, je voulais pas que ça soit un bleu ou une couleur. Je voulais que ça soit quelque chose qu'on ressent. Et puis Bouchra, elle a très très bien ressenti ce que je donne dans cet album, ce que je délivre entre guillemets, le côté sensuel, charnel, la peau, mon intimité. Et je pense qu'elle y est de dos.
Puisqu'on parlait de songwriting tout à l'heure, finissons par ça. Kiren, nous avons plusieurs points communs. Vous êtes maman, moi aussi. Vous êtes brune, moi aussi. Et vous adorez Springsteen, moi non plus. Un Springsteen en particulier, plutôt celui de Born to Run ou plutôt celui de Tom Joad?
The Ghost of Tom Joad ou Devils in Dust, bien sûr Nebraska, bien sûr. Il y en a plein.
Donc le Springsteen très intimiste.
J'aime les deux. Mais dans l'intimiste, je le reconnais. J'ai l'impression que c'est mon grand professeur qui est dans l'hôtel avec son 4 pistes. Parce que moi, j'ai commencé avec un 4 pistes enregistré. Et en fait, c'est la manière dont il est narrateur et la manière dont il ne juge pas. Et voilà, les leçons de vie qu'on peut avoir dans ses chansons, ça me bouleverse. C'est un bible pour moi.
Bruce Springsteen, un jeune artiste à suivre de très
jamais
près.
Jamais entendu parler.
Crois. Bien, Kerenan, ne bougez pas, vous êtes avec nous jusqu'à 17h. Est-ce que vous savez faire ça ? Elle sait le faire.
Parfaitement.
Non, mais alors ça. Vous voyez bien que les femmes arrivent à le faire.
J'ai jamais dit que c'était une histoire de sexe,
si,
en fait.
Si, vous avez...
Non, non. Pas, d'être nul en ce qui me concerne.
Mon histoire de pop.
Bon, pas du tout.
C'est juste pour lancer les pop news.
La cellule d'investigation de Pop 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 suit toujours ses dossiers. Lundi, en la présence de Gérard Darmon, nous avons relayé ici même cette pétition à l'initiative de Sens Critique et du Stagiaire des Affiches visant à célébrer les 25 ans de La Cité de la Peur, le film de Les Nuls à Cannes durant le festival en demandant à Alain Chabat et le dit Gérard Darmon de remonter sur scène pour ça.
Youpi, dansons la carioca.
Pétition dont nous sommes en mesure de vous dire que son nombre de signataires est désormais de 17 560 personnes, parmi lesquelles vos serviteurs, José Garcia et Kerenan. Continuez donc de signer la pétition qui se trouve sur change.org.
Barrez-vous, cours de mime !
Ils nous l'ont annoncé ici même en studio, les Nantais d'éléphants sortent un nouveau morceau. Il ne sera dispo que vendredi, mais en avant-première pour vos oreilles zébobies, en voici un avant-goût.
I don't want to lose it, but I can explain the magic. Girl, I fell in love with you.
Ça s'appelle Imperfection et ce sera dispo sur les plateformes de téléchargement légal, bien sûr, vendredi.
Nicolas Winding Refn, réalisateur danois, entre autres de Drive et de la trilogie Pusher, lance ce samedi un site de streaming gratuit destiné à présenter des raretés et documents de sa collection dont il a financé la restauration. On dit merci Nicolas et rendez-vous à partir de samedi sur www.bynwr.com.
France Inter. On peut pas. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
Ah, je l'ai pas.
Mais si. L'éléphant de Nantes.
Bien sûr, tout à fait. Ils vont venir vous chercher à la fin. Hein. Y a pas de, n'ayez pas peur, suivez-les.
Ne bougez pas avant d'accueillir l'auteur de Girls Rock, Sophie Rosemont. Écoutons un autre de vos morceaux. C'est Blue et c'est extrait de Blue.
Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche. Je veux pas laisser ce regard. Nul ne voit le grand soleil qui fait briller dès le réveil ce regard bleu, bleu merveilleux, bleu amoureux qui n'ose guère.
Renan, je vais vous laisser des annoncés.
C'était Bleu de l'album Bleu.
Ah ben ça, je peux le faire. Vous écoutez Pop.
Gentleman.
L'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Kerenan et vient de nous rejoindre l'auteur de Girls Rock. Bonjour Sophie Rosemont.
Bonjour Antoine.
Je crois que vous vous connaissez toutes les deux. Hein. J'ai pas besoin de
oui.
briser la glace, comme on dit. Bien. Girls Rock, c'est édité chez Nil. Alors d'abord, Sophie Rosemont, essayons de délimiter le champ de travail. C'est-à-dire, Chrissy Hynde, des Pretenders, oui. Beyoncé, non. Marianne Faithfull, oui. Lady Gaga, non. Patti Smith, oui. Annie Cordy, non. Comment définissez-vous le rock? Où commence-t-il? Où s'arrête-t-il? Vaste question.
C'est très difficile parce qu'il y a la musique rock et la rock'n'roll attitude. Mais pour ce livre, je devais hélas me restreindre. En plus, je suis Gémeaux, j'ai beaucoup de mal à choisir. Donc, j'ai décidé de parler de ce qui était soit électrique, soit autour de la guitare. Donc, il y a du Kate Bush, il y a du Joni Mitchell, et il y a effectivement du Chrissy Hynde, du Courtney Love. Voilà, j'ai vraiment fait un choix du point de vue pragmatique. Mais le rock'n'roll, évidemment, c'est énormément de choses. C'est avant tout la liberté, la radicalité, le discours. Voilà,
c'est pas juste des guitares et l'électricité.
C'est pas juste ça, même si c'est quand même beaucoup ça.
Ah bah c'est le cœur du réacteur, oui, on est d'accord. Avec Girls Rock, Sophie Rosemont, vous voulez en finir avec l'éternel cliché de la femme dans le rock, condamnée à être soit muse, soit groupie. Alors, question candide, est-ce que c'est plus difficile de percer dans le rock si l'on est une femme?
Pendant très longtemps, oui. Beaucoup plus difficile que pour les hommes. Déjà, c'était plus difficile pour une femme de faire de la musique. Dans les années, on va dire 50-60, la femme était vouée à faire la popote d'abord pour son père, ensuite pour son mari. Si elle partait sur les routes, elle avait intérêt à réussir. Et quand elle revenait chez elle, si jamais ça n'avait pas marché, personne ne lui proposait un travail intéressant, ce qu'on a toujours fait pour les hommes, souvent. Et pour moi, pendant très longtemps, faire de la musique, on était une femme. Et d'autant plus quand c'était du rock'n'roll, qui est quand même musique soi-disant masculine, mais on sait très bien que c'est complètement faux. C'était un acte quasi politique, et en tout cas une énorme prise de risque. Maintenant, la société a évolué, donc c'est plus facile pour une femme de s'imposer dans la musique et surtout de montrer qu'elle peut tout faire toute seule, qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour lui enregistrer ses chansons.
Mais quand vous dites que c'est totalement faux, le rock reste quand même à dominante masculine.
Oh, pas tant que ça.
Je ne juge pas, je dis pas que c'est bien ou pas bien.
Mais il y a plus de groupes.
Ça, c'est parce qu'on dit que Billie Holiday, c'est du jazz, mais Billie Holiday, c'est une démarche rock'n'roll totalement.
Mais oui, il y a des noms masculins très forts que j'adore, que ce soit Lou Reed, Mick Jagger, Jim Morrison, mais bien sûr. Mais quand on parle des débuts du rock, par exemple, on parle souvent de Elvis Presley ou de Hank Williams, ou de Fats Domino, bien sûr. Mais avant, il y a eu Sister Rosetta Tharpe. Et on l'oublie souvent, et c'est elle qui a inspiré Chuck Berry, notamment. Sans elle, il n'y aurait pas eu les Stones. Et je trouve que c'est plus facile d'oublier quand c'est une femme qui fait du rock'n'roll. Quand c'est la pop, un peu moins. Mais quand c'est du rock'n'roll, ou d'ailleurs du hip-hop aussi, c'est à peu près le même type de configuration, on oublie souvent les femmes.
Je laisse mon Keith Richards à moi vous poser une question.
Je vous remercie pour la comparaison.
Vous en prie.
Le livre est préfacé par l'immense Shirley Manson, chanteuse de Garbage. Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle symbolise dans le panorama girl rock?
Eh bien, déjà, Shirley a un discours très engagé depuis très longtemps, très engagé dans le féminisme. C'est une belle capitaine, elle fait partie du chapitre « Le capitaine est une femme », c'est-à-dire que même s'il était avec des musiciens extraordinaires que sont ceux de Garbage, elle a énormément apporté et elle s'est imposée. Ensuite, elle aurait pu être restreinte à sa seule beauté, parce que c'est aussi une très belle femme, et en fait, non, elle a vraiment montré qu'elle avait de la puissance au sein de son groupe, au sein de la musique. Et cette idée de préface, enfin, le fait que ça soit elle qui le fasse est venu très naturellement quand on s'est rencontrés l'année dernière lors d'une interview autour d'une réédition de Garbage. Et en fait, on est resté très très longtemps à parler et beaucoup de féminisme, la manière dont elle envisageait la musique. Et j'ai pensé à elle pour la préface, je lui ai fait transmettre une petite demande et elle a dit oui sans hésiter, ce qui était quand même extraordinaire.
Question que je pose à toutes les deux, Karen Anne, Sophie Rosemont, est-ce que vous pensez que les femmes sont jugées plus sévèrement que les hommes dans le rock?
Moi je pense que les femmes sont jugées plus sévèrement dans tout, pas forcément dans le rock, parce qu'il faut qu'elles le fassent. Il y a toujours, ça dépend quel âge on a, mais quand on est jeune, on cherche toujours l'homme derrière. Je pense que après, quand on se rend compte qu'on est capable de tirer des câbles et de faire du son et d'aller en studio, de connaître chaque bouton et de connaître des préamplis, des compresseurs, et après on nous regarde autrement. Et puis, mais par contre, même si on fait, ça met du temps. Mais c'est vrai qu'au départ, surtout dans le côté laborieux du travail, même dans le côté intellectuel du travail. En général, quand on est jeune, on cherche qui est l'homme derrière, et quand on se rend compte qu'il n'y a pas d'homme derrière, on cherche autre chose. Et puis à un moment, on arrête de chercher et puis on prend notre place. Mais je pense que oui, au départ, les femmes sont jugées plus sévèrement dans les métiers.
Sophie Rosemont.
Entièrement d'accord. On est toujours soit, quand on est musicienne, on est forcément soit trop belle, soit pas assez belle, soit trop exubérante, soit trop introvertie. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Mmh. Et toutes les grandes icônes musicales, on parlait tout à l'heure de Joni Mitchell. Souvent, elle en a parlé de ça, que c'était quand même insupportable d'être toujours réduite à son seul statut de femme. C'est merveilleux d'être une femme, on est contente de l'être, mais on n'est pas que ça. Et être réduite uniquement à notre sexe quand on fait de la musique, c'est un peu agaçant. Et surtout quand on est censé moins bien faire que les hommes, parce qu'on est soi-disant le sexe faible. Mm-hmm. Alors que beaucoup de ces femmes-là composent et écrivent toutes seules.
Marche aussi avec Rock Critique, je le dis.
Ça marche à 1000%. Nous, on sera considérés comme des groupies. Moi, j'ai remarqué ça, alors que le groupie est aussi un homme. On ne peut pas dire que la groupie, il faudrait qu'on dise le groupie. Mm-hmm. C'est très bien d'être groupie quand on est homme ou femme, mais lorsqu'on est journaliste musical, souvent on pense qu'on est amoureux du chanteur ou ceci ou cela. Pas du tout. C'est juste qu'on aime la musique et on aime en parler autant que les hommes.
Charline, vous n'êtes pas du sexe faible.
Non, tiens, je
vous laisse
pas
poser une autre question.
Je vous remercie, patron, vous êtes magnanime. Que les artistes que vous citez dans le livre soient, je cite, cavalières en solitaire, femmes capitaines, bande de filles émancipées, muses, briseuses de cœur, discrètes, engagées, supersexuées, excessives jusqu'à la tragédie, qu'ont-elles de commun, vous qui les avez étudiées ? Oui, cette énonciation de catégorie sonne un peu comme un manifeste féministe, on ne va pas se la cacher non plus. Hein.
Elles sont toutes très, très éprises de liberté, très indépendantes, quoi qu'il arrive. Et souvent, quand même, c'est des combattantes. Très, très, très souvent. Elles sont combattues pour imposer leur son ou imposer leur performance scénique. S'imposer même dans leur vie personnelle, en-delà de leur carrière d'artiste. Elles sont souvent aussi engagées. Et ce qui est très intéressant, je m'en suis rendu compte seulement en écrivant, durant l'écriture du livre, c'est me rendre compte à quel point elles se sont toutes soutenues, appréciées, citées, influencées. Le côté rivalité que les hommes aiment bien dire à propos des femmes, c'est complètement faux. Souvent, elles se citent Saint-Vincent, parle de Kate Bush avec les étoiles dans les yeux. C'est Anna Calvi parle de Patti Smith, pareil. Et il n'y a aucune... cette rivalité, j'ai très peu senti. Et après, il y a toujours des femmes comme Courtney Love, qu'on adore, qui vont... un peu s'énerver sur d'autres, mais ça reste
Lana
vraiment...
Del Rey,
par exemple, entre autres. Mais non, il y a quand même une extrême bienveillance entre toutes ces artistes, et ça, je trouve ça vraiment...
La preuve de cette bienveillance, elle est dans le livre, puisque vous avez demandé à de jeunes artistes de parler de leurs références, ainsi Clara Luciani parle de PJ Harvey, Jeanne Haddad de Courtney Love, ou encore Lou Doyon de Patti Smith. Karen Anne, si vous deviez faire la porte-parole d'une rockeuse, d'une grande rockeuse qui vous a ouvert les chakras, ça serait qui ?
Ah, bien évidemment, Billie Holiday, pour moi, c'est une grande figure du rock, vraiment. Mm-hmm. Tout son attitude, pareil Nina Simone. Après, Patti Smith, et bien évidemment, parce que c'est un peu au-delà, c'est toute la personnalité, ses écrits puissants. Chrissy Hynde aussi. J'avoue que pour moi, le rock'n'roll, il existe... pas qu'en surface. C'est pour ça que Nina Simone et Billie Holiday, pour moi, sont vraiment des figures, des grandes figures du rock'n'roll, dans tous les sens du terme, leur bataille et comment ils ont dû s'imposer et pour pouvoir imposer leur progression harmonique, ne serait-ce que leur interprétation et la manière dont elles avaient choisi quelle poésie ils avaient envie de défendre. Ils ont montré justement, ils ont ouvert une porte incroyable pour la génération d'après. Et c'est sûr qu'une grande rockeuse à mon goût, ce serait plutôt une folkeuse pour d'autres, c'est Carole King, parce que pareil, toutes ces chansons.
Qui vous a...
Oui, et puis le nombre de reprises de ces chansons à l'époque, c'était presque, il y a part Dylan qui a été autant repris, l'époque, le nombre de chansons reprises, on n'en parle pas, mais il n'y avait pas un groupe qui n'avait pas interprété au moins une fois dans sa vie une chanson de Carole King au niveau du songwriting, alors que c'est une figure qui pourrait être rock.
Alors je l'ai, Carole King, Sophie Rosemont, pour vous, ça serait qui ? Là, celle qui surnage ? Si vous deviez n'en garder qu'une.
Alors là, vraiment, vous me posez une colle. C'est très, très, très difficile. Je crois que je suis vraiment incapable de répondre. Donc, soit je répondrais à une pionnière, Rosetta, ou alors une actuelle qui a beaucoup imposé, on va dire PJ Harvey. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est très difficile de choisir. Elles sont toutes vraiment... extraordinaire.
Ça s'appelle un volume 2.
PJ Harvey, ça ne pouvait pas mieux tomber. Vous allez voir pourquoi. Girls Rock s'est édité chez Nil. J'en profite pour annoncer qu'il est sélectionné pour le prix Barbès présidé cette année par Juliette Armanet. L'année dernière, c'était moi.
Oui, c'est vrai.
La, 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 la. Kerenan, Sophie Rosemont, je vous coupe car il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Et j'y vais de ce pas. Mais c'est quoi tout ce monde là ?
Ah, mais ce sont les signataires de la pétition pour que Chabat et Darmon refassent la Carioca à Cannes. Oh là là, mais ils sont de plus en plus nombreux, il y a au moins 20 000 personnes, là. Bon, continuez les mecs, objectif 50 000. Voilà, en attendant, je vais me mettre un petit morceau. Bon, pas la Carioca, mais Pitchy Harvey, justement, pour terminer cette émission Girls Power.
Harvey dans Pop 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 sur France Inter avec ce morceau Good Fortune. Voilà, c'est ici que les Athéniens s'atteignent. Mesdames, merci Sophie Rosemont. Je rappelle que Girls Rock, c'est à retrouver aux éditions Nil. Du Nil, c'est ça? Merci Kerenan. Bleu, votre nouvel album est lui aussi disponible et j'en profite à partir d'après-demain pour annoncer que vous serez en concert à l'Olympia le 24 octobre prochain, tout cela étant bien évidemment très chaudement recommandé par Pop Pop Pop, dont je remercie l'équipe, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Léo Prangère, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Alice Delcourt, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, une spéciale stand-up, enfin sit-down, autour de cette table avec Kevin Razi et Maxime Gasteuil. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos carioca sur YouTube, youpi! Dansons la carioca! Bon, abonnez-vous
à
notre podcast.
On est sûr de ça.
Et suivez-nous.
On est vraiment sur
Internet, comme disent les millennials, 36-15, pop, 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 sur Instagram et Twitter.